Raphaël Haroche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. 3 victoires de la musique, c'était le disque Caravane, 2 millions de disques vendus. Je vais également citer les albums Je sais que la Terre est plate ou Super Welter. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai jamais fait d'interview de Cassius Clay. Entre deux interviews, mon invité a changé de nom. Vous étiez Raphaël et vous êtes devenu Raphaël Haroche. Pour quelle raison ?
C'est pas tout à fait comme ça que je présenterai les choses. Je me conforme aux usages, donc dans mes activités de chanteur, je n'ai qu'un prénom, comme beaucoup de chanteurs. Barbara ou Christophe ou Sheila. Par contre, on ne connaît pas beaucoup d'écrivains qui n'ont qu'un prénom.
Parce que vous venez de publier votre premier livre, un recueil de nouvelles, ça s'appelle « Retourner à la mer » chez Gallimard. Pourquoi et surtout comment vous êtes-vous mis à l'écriture ?
Pourquoi ? Je ne sais pas. Comment ? Je pense que j'ai une culture du livre depuis toujours. Et puis, quand même, écrire des chansons, c'est écrire.
Quel genre d'ami
ah
ferait
ouais, ça,
ça,
ça c'est un poème, oui.
C'est écrit
ça.
Comme une chanson.
C'est une chanson.
Ah bah voilà. Donc c'était ma question. Comment vous êtes mis à l'écriture ? Est-ce que ce sont des chansons que vous avez rallongées ? Est-ce que vous êtes mis dans la tête d'écrire un roman quand vous étiez jeune ?
Non, alors c'est pas des chansons que j'ai rallongées. Disons qu'il y en a une, parce que mon éditeur aimait bien ce texte et qu'il avait envie qu'il y ait quand même une passerelle avec la chanson. Mais sinon, c'est des muscles différents. J'ai l'impression qu'une chanson, c'est plus un courant de pensée. C'est, il faut exprimer en 5, 8 phrases, 10 phrases. Quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition, alors que ça, c'est, il faut produire des images, et puis il faut raconter des personnages, et puis les faire parler. Enfin, c'est, je crois que ça a assez peu de rapport. Après, le seul rapport, peut-être, c'est que la chanson, c'est un mode d'expression poétique.
13 histoires, 13 tranches de vie, il y a des hommes, des femmes, des enfants, beaucoup d'animaux, très sombres. Pourquoi ?
Je trouve pas ça très sombre, je trouve que ça ressemble un peu au monde dans lequel on vit. J'ai l'impression que je raconte un peu notre époque d'une manière pas spécialement sans noircir
les tableaux. C'est oppressant, il y a un type qui manque de tuer son fils.
Il manque pas de tuer son fils, il a un accident de voiture, au contraire il s'en sort très bien. Je pense que beaucoup de gens s'en sortiraient beaucoup moins bien que lui dans cette situation.
Mais racontez pas la fin.
Ouais, c'est pas grave.
C'est la première nouvelle, c'est un petit veau qui va à l'abattoir et qui assiste au massacre de sa famille. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est du vécu ?
Non, c'est pas du vécu. Déjà, évidemment, je suis très sensible à la souffrance animale, comme beaucoup de gens.
Vous auriez pu visiter un abattoir, c'était ça le sens de ma question.
On m'a proposé après de commenter des vidéos pour cette association et j'aurais
L214,
j'aurais voulu le faire, mais j'aurais même pas pu regarder ces images. Non, je trouve ça terrible, les abattoirs, ce qu'on fait aux animaux, ce qu'on fait aux hommes dans ces endroits, parce que c'est terrible aussi pour les gens qui travaillent dedans, je pense que ça doit être très difficile. Ça parle de ça, cette nouvelle, et puis ça parle aussi peut-être un peu de ce que c'est que la mort industrielle.
Il y a les animaux et la mort pas seulement industrielle, il y a l'orque du Marineland, qui est la dernière nouvelle, j'ai appris avec vous, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, qu'un orque qui perd sa maman a 8 chances de plus
vrai.
Que mourir qu'un autre orque.
C'est vrai. C'est vrai, je me demande effectivement comment ils s'en sont arrivés à ce genre de statistiques.
J'allais vous le demander, mais vous dites dans le livre, on se demande comment ils sont arrivés à ce chiffre.
Mais c'est pareil, c'est terrible, ces animaux emprisonnés devant la mer. Bon, moi j'ai été visiter le parc d'attractions Marineland, c'est désolant comme truc, quoi.
Vous avez travaillé la documentation ? Comment vous avez travaillé ?
Non, j'ai juste fait Wikipédia, j'ai regardé quels étaient les 4 trucs dans un... Non, c'est pas du tout documenté, je suis pas dans une approche réaliste.
Parce qu'au journal Elle, vous avez dit « Ces nouvelles me ressemblent, presque toutes parlent de moi, très directement ».
Oui, alors, mais moi je suis documenté sur moi-même, ça c'est très
facile. D'accord, donc le Viagra c'est pour vous ou pas ? Parce que vous en parlez avec presque de la doc dedans.
Oui, j'ai lu la notice du Viagra, bien sûr. Mais ces nouvelles parlent de moi, mais ça veut pas dire que c'est autobiographique. J'ai pas été bouché d'abattoir, mais après ça parle de moi parce que j'ai toujours un point de contact avec ces histoires. Et c'est une manière de parler de moi avec des paravents en mettant des écrans.
La plus belle femme du monde, nouvelle absolument incroyable, vous l'avez rencontrée ?
Oui, c'était quand même moi, mais c'est-à-dire que ça parle de ce qu'on est prêt à accepter par amour, voilà. C'est-à-dire à peu près tout pour tirer un coup, en gros.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, vous avez accepté ça ? Peut-être là, je suis obligé de dire ce que c'est.
Pas ça précisément, mais...
Est-ce que j'ai pu coucher avec une fille antisémite ouvertement ?
Ah oui.
Ah oui ?
Peut-être, ouais. Je ne sais plus. Ça aurait pu m'arriver.
Alors, il y avait beaucoup d'alcool dans vos chansons.
Oui.
Et il y a pas mal d'alcool dans ce recueil.
Ouais.
Ça, c'est vous ou pas ?
Je ne suis pas exactement un alcoolique, si vous voulez le savoir. Après, j'aime bien le vin, j'aime bien le whisky, j'aime bien le gin, comme dirait François Damien. J'aime bien tout un tas de trucs.
Mais... Je veux dire pourquoi je vous pose la question, parce que ce n'est pas une interview médicale. C'est qu'au moment où vous écriviez des chansons, vous en écrivez toujours, vous disiez « J'écris assez facilement les lendemains de cuite, comme si j'avais une petite dépression, comme si je sentais mieux la fragilité des choses. »
Oui, mais non, ça m'aide pas. C'est plutôt une perte de temps pour moi, l'alcool. C'est un plaisir, mais ça m'aide pas à écrire.
Raphaël Haroche avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Raphaël Haroche avec nous. On l'a connu comme chanteur. Il est écrivain. On reconnaît un écrivain à ce qu'il y a son nom de famille sur la couverture. Ça s'appelle Retourner à la mer. C'est son premier livre. C'est un recueil de nouvelles et c'est chez Gallimard dans la célèbre collection Blanche. On se dit que c'est un tour de force parce que c'est le graal de tout écrivain. Or, on découvre que votre éditeur est un ami d'enfance.
Ouais.
Il vous a signé les yeux fermés.
Ça se passe pas exactement comme ça. J'ai travaillé avec Aurélien Masson, ami d'enfance intime, qui s'occupe de la série noire chez Gallimard. Je lui avais fait lire quelque chose que j'avais écrit il y a 2-3 ans, qu'il avait trouvé assez mauvais pour me le jeter à la gueule.
Donc il vous sort par la porte, Mais vous revenez par la fenêtre ?
Non, pas exactement. Ensuite, j'écris des nouvelles et je lui en parle au cours d'un dîner. Il me dit bah, « j'aimerais bien les lire ». Et je lui ai fait lire, ça lui a bien plu, on a travaillé ensemble sur les textes. Et ensuite, il l'a soumis au comité de lecture de la série blanche. Lui, il pouvait l'éditer directement. Mais moi, je n'avais pas envie qu'il l'édite directement, déjà parce que j'avais envie d'être dans la collection blanche, parce qu'il y a le prestige de l'uniforme qui me séduit énormément. Et ensuite, parce que j'avais pas envie d'avoir un passe-droit, ça m'intéressait pas.
Je vais parler de vous, de votre manière d'écrire. Pardon pour l'expression, vous écrivez dans le bordel.
J'aime bien quand il y a du bruit, j'aime pas la solitude d'un bureau, j'ai besoin qu'il y ait un peu de vie autour.
Je vais vous dire ce que vous avez dit, qui m'a vraiment frappé. J'aime écrire au milieu de la famille, en faisant la cuisine en même temps, avec la télé allumée et les gosses qui jouent.
C'est peut-être pas tout en même temps, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai souvent pris des bureaux pour travailler. L'idée de me retrouver dans une pièce que j'ai louée en allant au bureau à 10h, en sachant que j'y vais de 10h à 18h, ça me renvoie quelque chose d'une obligation et qui fait que ça ne marche pas. Et j'ai besoin d'utiliser certains stratagèmes avec moi-même pour écrire facilement et donc de le faire sans me rendre compte que je travaille. Donc je me lève, je joue du piano, il y a un gosse qui joue du piano à côté qui met la télé, je passe à autre chose, j'écris et tout se fait dans une certaine désinvolture et décontraction.
J'avais retrouvé une interview ancienne de vous dans laquelle vous disiez incapable de faire un lit. Cuisiner, changer une ampoule.
Je travaille beaucoup là-dessus. Je cuisine pour le plaisir. C'est-à-dire que la cuisine quotidienne, c'est encore difficile pour moi. Mais par contre, me dire, tiens, ce jour-là, je vais préparer un truc, je vais faire des courses, je vais respecter la recette au millième de gramme près, parce que je suis très, très procédurier avec les recettes. Si je dépasse d'un gramme, tout est foutu et je suis désespéré. Donc j'aime bien cuisiner. C'est aussi un truc qu'on partage avec les gosses, quoi.
Pardon de dire ça, mais il y a l'omniprésence de la mort dans ce recueil, ou est-ce que c'est moi qui me fais une idée? Ou est-ce que vous allez me dire qu'elle fait partie de la vie?
Ouais, je vais vous dire sûrement que ça fait partie de la vie. Ça, c'est une forme de romantisme, quand même, qu'il y a aussi dans mes chansons.
Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Dites-moi. Vous aviez raconté il y a quelques années que des gens vous écrivaient pour vous dire qu'ils avaient utilisé une de vos chansons comme musique d'enterrement.
C'était pas vraiment des gens qui m'avaient écrit pour me le dire. Enfin, j'avais été au courant de choses comme ça, donc ça ne plaît pas forcément de réponse. Et il y a une nouvelle qui parle pas vraiment de ça, mais c'est une tragédie qui se déroule pendant qu'une compilation de Bowie est diffusée à la radio. Peut-être cette nouvelle vient de là, par exemple.
Puisqu'on parle de musique, votre prochain album sort en septembre, je suis bien informé.
Le 22 septembre.
Ça va être quel genre ?
Genre très cool.
Vous avez déclaré ça au journal Les Échos, journal économique. Contrairement à mes autres albums, avez-vous dit, on comprendra enfin mes textes.
Non, non, mais je pense qu'on comprend déjà pas mal de textes. Il faut resituer un petit peu. Ça parlait de l'impact que pourrait avoir l'écriture des nouvelles sur l'écriture des chansons.
Mais en même temps, le mot comprendre, c'est polysémique. Ça veut dire comprendre, on comprend la phrase que vous voulez dire par là. Et il y a aussi comprendre, entendre, il y a aussi le mixage. Parfois, votre voix, elle était en dessous.
Oui, mais je pense que dans les deux cas, il est fluide et il est lisible. J'ai travaillé avec un très bon réalisateur extraordinaire qui est Gaëtan Roussel, chanteur de Louise Attaque, qui a réalisé vraiment tout l'album de A à Z. Le matin, j'arrivais avec mon petit cahier à la main, je lui disais alors qu'est-ce qu'on garde dans les textes ? Il me disait, est-ce que ça c'est pas un peu du bavardage ? Il me disait, je le formulerai pas comme ça, oui, mais faisons plus simple. Ça va encore comme un peu le travail avec mon éditeur. C'est le goût de l'épure, quoi. Je crois que ce disque est bien.
Vous avez quel âge ?
41 ans.
Vous êtes jeune ou plus jeune ?
Non, je suis pas très jeune, non.
Vous avez dit « La mort de Bowie a signé la fin de ma jeunesse ».
Je pense que ma jeunesse était finie depuis bien longtemps déjà, mais en tout cas je suis assez inconsolable, j'y pense encore presque quotidiennement, il m'arrive même de rêver de Bowie.
Et vous aviez fait sa première partie ?
Oui, oui, j'avais fait sa première partie.
La Rochefoucauld disait « il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, il n'est pas tombé de son piédestal quand vous l'avez vu en vrai devant vous en train de jouer depuis les coulisses ».
Non, pas du tout. Non, 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 non. Mais je sais pas, c'est un éblouissement d'enfant, quoi. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a changé ma vie. Depuis que j'ai 7 ans, je veux être musicien et en grande partie grâce à lui, quoi. C'est l'élégance même, quoi. Voilà. Ouais, ce dandy, en fait, absolu, quoi. Même dans sa mort, c'est une mutation. C'est même pas une mort. On sait même plus comment mourir. Enfin, bah oui, quoi. C'est devenu impossible, quoi.
Raphaël Haroche avec nous sur France Info. C'est possible qu'on le retrouve. D'ailleurs, c'est même certain. Le chanteur Raphaël avec nous, qui s'appelle Raphaël Haroche quand il écrit, ça s'appelle Retourner à la mer, ce sont des nouvelles chez Gallimard et c'est votre premier livre. Plein de questions dans tous les sens. Est-il vrai que vos parents se sont séparés avant votre naissance, mais qu'ils sont remis ensemble quand vous avez eu 4 ans ?
Ils se sont... Oui, c'est exact.
Et ouais, ensuite, exact. Ça a continué ?
Oui, ils sont ensemble. J'ai été témoin de leur remariage il y a une dizaine d'années.
C'est pas vrai ?
Si, 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 c'était très beau. J'ai assisté, je crois, à 2 mariages dans ma vie et c'était de loin le meilleur.
Est-il vrai, vous avez réussi à entrer à Hippocagne au lycée Henri IV, ce qui est pas rien, je précise, grand lycée prestigieux à Parisien, et vous n'y êtes resté qu'une seule journée?
Oui, j'y ai pas été en fait, oui, oui, parce que j'avais pas envie, j'avais envie de faire des études de littérature, mais j'avais déjà fait mes études avant à Henri IV, et j'avais un peu envie de sortir avec des filles, tout ça, et de me marrer, et de glander, quoi. J'avais pas envie de me remettre dans un tunnel de travail aussi
et
exigeant.
Et l'un empêchait l'autre?
Oui, je crois que les gens qui allaient à Hippocagne ne sortaient pas beaucoup avec des filles.
Ah bon?
C'était en tout cas ma vision des choses. Peut-être que c'est une grosse erreur, peut-être que j'aurais été très actif en Hippocagne, mais je n'ai pas pu, je ne saurais jamais.
Est-il vrai que quand vous étiez plus jeune, vous aviez un ennemi, Raphaël Antoen ?
Pas du tout, pas du tout, non, non, c'était pas du tout un ennemi. On était en classe ensemble, on était bons en philo tous les deux. en été, je crois, on se tire un peu la bourre. Et non, je trouve ça beau, là, tout ce qu'il fait, ce qu'il écrit. J'aime bien le fait qu'il ait d'avoir assisté un peu à la découverte de cette passion, quoi, qu'il a jamais quitté depuis. Et puis, j'aime bien sa pensée. Je connais pas bien, mais quand je le vois à la télé ou à la radio et tout, je trouve qu'il a une analyse du monde toujours. Je l'ai croisé à une corrida il y a pas très longtemps. On était tous les deux, comme ça, un peu spectateurs d'un truc en se disant, ça doit être magnifique et indéfendable en même temps. Et on était un peu surpris tous les deux. Voilà, on regardait en tant que protecteur du bien-être animal, on n'était pas tout à fait à l'aise.
Ça allait être ma question. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à une corrida?
Bah, je voulais voir, quoi. C'est bien de voir les choses.
Mais... C'était votre première?
Ouais.
Et alors?
C'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi.
Est-il vrai qu'en tournée avec Vanessa Paradis, vous avez détruit une chambre d'hôtel?
Je faisais la première partie de Vanessa Paradis il y a 20 ans à peu près.
Ouais.
Et
mais elle est authentique cette histoire?
Ouais. Et on était dans un tout petit hôtel et je sais pas quoi. On avait 20 ans, quoi. Et j'étais avec mon camarade musicien exquis qui s'appelle Julien Schultes et on a un peu, je veux dire, il y avait une.
Ah, moi j'ai lu que vous avez tout détruit et que vous avez obligé le réceptionniste à manger de la glace.
Et je me rappelle juste qu'on avait eu une plainte après et qu'on avait dû aller s'expliquer à la police et que les flics s'étaient marrés parce que les circonstances étaient tellement absurdes, quoi. Mais c'était pas. Ça me paraissait assez marrant. Assez...
Une question que je vous aurais pas posée si j'avais pas retrouvé un écho dans une des nouvelles. Est-il vrai, vous l'aviez dit à Libération il y a 5 ou 6 ans, si vous pouviez, vous dormiriez tout habillé avec vos chaussures? Et on retrouve ça dans je sais plus quelle nouvelle. Le gars qui s'endort avec ses chaussures.
Ah bon?
Ouais.
Ah non, c'est le truc, quel genre d'ami ferait ça? C'est un type, d'accord, ouais. C'est pas ça, c'est un type qui porte les chaussures d'un mort et qui se dit que c'est un peu comme s'il marchait dans l'au-delà. C'est un peu différent. Voilà. Non, c'est différent.
Non, je me dis, tiens, ça fait écho à ça. Est-ce que vous endormez parfois avec vos pompes?
Non, je m'endors pas avec mes pompes. Au contraire, j'aime bien enlever mes pompes. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien comme ça se déchausser, être pieds nus partout et que moi, j'aime bien chez moi, quoi. Mais sinon, je reste habillé, quoi.
Est-il vrai que vous regardez tous les jours une vidéo sur YouTube, un numéro de Fred Astaire? Et Rita et
Wolfs. C'était vrai il y a 2 ans, maintenant j'ai
mais je me suis dit, mais comment on peut regarder tous les jours une vidéo? C'est quoi cette vidéo?
C'est un numéro de danse époustouflant. Comme
parce
ça,
que je veux dire, j'ai lu ça, je me dis, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ce que c'est. Et je suis pas allé voir, je voulais que vous me racontiez avant.
Bah, c'est Fred Astaire qui danse avec Rita Hayworth et il danse comme des oiseaux, c'est splendide et la gravité ne les atteint pas et c'est tellement beau.
J'ai relevé un oxymore qui m'a assez frappé, vous avez dit à Libé, je suis un libertin jaloux. Alors je me dis, mais comment est-ce possible? Parce qu'un libertin n'est pas jaloux. Et un jaloux ne peut pas être libertin.
Eh bien, écoutez, je ne suis pas libertin, en tout cas, ça c'est sûr. Au sens, en tout cas, on l'entend. Et puis, jaloux, non, je suis jaloux quand je suis malheureux, quand ça va pas dans ma vie, mais sinon, a priori, non, je le suis pas, quoi, c'est...
Pardon de rigoler, donc en fait, vous n'êtes ni libertin, ni jaloux,
non.
Mais la phrase est devenue, je suis devenu un libertin jaloux.
Ouais, je sais pas pourquoi c'est devenu ce truc-là. C'est encore à Libé, j'ai dit des tas de trucs à Libé un jour, je devais être... C'est parce qu'il m'a pris.
Ça fait vraiment plaisir d'avoir des explications. Merci beaucoup d'être venu, Raphaël.
Je vous en prie.